Quiconque élève des enfants se rend vite compte qu'une majeure partie de leur éducation consiste à les mettre en garde contre divers dangers. Par exemple, il faut leur dire de ne pas toucher un four qui est chaud, bien regarder des deux côtés de la route avant de la traverser, de ne pas monter dans une voiture d'un étranger, quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Dans le domaine spirituel aussi, les dangers abondent et les soucis de tout pasteur est de protéger ses brebis. C'est l'un des objectifs de l'apôtre Jean quand il écrit sa première épître. Je continue de lire dans le chapitre 2. « Je vous ai écrit ceci au sujet de ceux qui vous séduisent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui, Dieu, demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. » Mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui comme elle vous l'a enseigné. Jean dit à ses lecteurs, « L'onction que vous avez reçue de Dieu demeure en vous. Cette onction est le Saint-Esprit qui les enseigne. » Or, précédemment, Jean les a exhortés en disant, « Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, or, ce qu'ils ont entendu de la parole de Dieu. » Jean établit donc un parallélisme qui montre le lien fondamental qui existe entre la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu, les deux vecteurs par lesquels Dieu enseigne ses enfants. Jean rappelle donc à ses lecteurs que la vérité à laquelle ils ont cru ainsi que le Saint-Esprit demeure en eux. Or, comme ils n'ont besoin que de la vérité de Dieu et qu'elle est incompatible avec l'erreur, ils ne doivent pas prêter attention au discours des hérétiques qui s'appuient sur une sagesse et une philosophie toute humaine. Comme je l'ai déjà dit, le mot pour onction signifie pommade ou huile. Sous l'ancienne alliance, seuls les descendants d'Aaron, frères de Moïse, peuvent exercer la fonction de prêtre. Et au moment de leur investiture, ils reçoivent une onction avec une huile spécialement fabriquée à cet effet. Suite à cette cérémonie officielle, ils sont déclarés saints, c'est-à-dire mis à part pour le service du culte de l'Éternel. Quand une personne place sa confiance en Jésus comme étant le Christ et le Fils de Dieu venu sur terre pour faire l'expiation des péchés, il reçoit l'onction de Dieu qui est le Saint-Esprit. Elle est ainsi mise à part pour appartenir à Dieu et le servir. Dans sa première épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul écrit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ? C'est le Saint-Esprit qui rend le croyant capable de comprendre la parole de Dieu et de distinguer la vérité de l'erreur. Jean rapporte que Jésus a dit à ses disciples, « Le conseiller, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. » De nombreux érudits non-croyants, qu'ils soient ecclésiastiques ou autres, consacrent beaucoup d'énergie à étudier les Saintes Écritures. Mais comme ils ne possèdent pas une foi personnelle dans le Fils de Dieu, ils ne font pas partie de son troupeau. Il s'ensuit que les conclusions de leurs recherches sont erronées, mais ne sauraient tromper les véritables croyants. Toujours, dans l'Évangile selon Jean, on lit que Jésus a dit « Celui qui entre par la porte est, lui, le berger des brebis. Le gardien de l'enclos lui ouvre, les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom celles qui lui appartiennent et il les fait sortir de l'enclos. Quand il a conduit au dehors toutes celles qui sont à lui, il marche à leur tête et les brebis le suivent, parce que sa voix leur est familière. Jamais elles ne suivront un étranger, au contraire, elles fuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Et dans sa première épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul écrit « Nul ne peut connaître ce qui est en Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous avons reçu non l'Esprit du monde, mais l'Esprit même qui vient de Dieu pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. Et nous en parlons non avec les termes qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Ainsi, nous exposons les réalités spirituelles dans des termes inspirés par l'Esprit. Mais l'homme livré à lui-même ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie, et il est incapable de le comprendre, car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. En Israël, sous l'Ancienne Alliance, la connaissance de Dieu est transmise par l'intermédiaire des prêtres, des lévites, des prophètes ou des rois. Sous la Nouvelle Alliance, tous les croyants reçoivent l'onction de l'Esprit qui les enseigne. C'est cette illumination qui donne aux croyants la connaissance de Dieu. Les antichrists prétendent connaître Dieu, alors qu'en réalité, ils propagent des hérésies. L'illumination de l'Esprit a été annoncée par les prophètes. Jérémie écrit « Mais des jours vont venir, déclare l'Éternel, où moi, je conclurai avec le peuple d'Israël et celui de Juda une alliance nouvelle. Je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je la graverai dans leur cœur. Moi, je serai leur Dieu. Eux, ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un l'autre en répétant chacun à son compagnon ou son frère. Il faut que tu connaisses l'Éternel. » Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. L'Éternel le déclare, car je pardonnerai leurs fautes, je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. Sous l'Ancienne Alliance, l'échec cinglant et répété des Israélites à observer la loi de Moïse rend la situation mûre pour que l'Éternel promette un nouveau commencement, un nouveau régime, une nouvelle alliance dans laquelle les causes de l'échec de l'Ancienne Alliance sont éliminées. Un simple recommodage ne peut suffire, parce qu'il ne changera rien au fond du problème de l'homme, qui est son incapacité totale d'obéir à Dieu. Il faut donc que Dieu crée du neuf sur terre. Bien que le jugement occupe la plus grande partie dans la prédication de Jérémie, c'est lui, plus que tout autre prophète, qui développe le thème de la Nouvelle Alliance et qui montre que l'objectif ultime de Dieu est la restauration du peuple choisi, et avec lui, de toute l'humanité, du moins, de ceux qui font personnellement confiance à Jésus-Christ. Ce passage de Jérémie est le seul de l'Ancien Testament qui parle d'une alliance nouvelle. Ce nouveau contrat entre Dieu et les hommes, met au rebut, parmi les choses périmées, l'alliance de la loi qui a été conclue entre l'Éternel et Israël au mont Sinaï. Jésus aussi a parlé de la nouvelle alliance lorsqu'il a institué la scène dans l'Évangile selon Luc, on lit. Il prit du pain, remercia Dieu, le partagea en morceaux qu'il leur donna à ses disciples en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en souvenir de moi. » Après le repas, il fit de même pour la coupe en disant « Ceci est la coupe de la nouvelle alliance conclue par mon sang qui va être versée pour vous. » Cependant, il faut souligner de deux gros traits que la nouvelle alliance n'abroge en rien la partie morale de la loi de Dieu. La grande différence réside dans le fait que sous l'Ancien Régime, la loi est imposée par des forces extérieures, alors que sous le régime de la grâce, elle est gravée dans le cœur de chaque personne qui place sa confiance en Jésus. Dès cet instant, le croyant est doté d'une nouvelle nature et donc d'une nouvelle volonté qui crée en lui le désir d'obéir à Dieu. La nouvelle alliance est déjà opérationnelle dans l'Église du Christ et sera appliquée au peuple d'Israël à la fin des temps quand les Juifs reviendront de la diaspora dans leur pays. Les alliances que l'Éternel a établies avec Abraham et David, ainsi que la nouvelle alliance en Jésus-Christ, convergent dans le millénium sous la houlette du Messie. L'établissement de la nouvelle alliance est l'affirmation de Jean. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Ne signifie évidemment pas que le croyant reçoit instantanément une connaissance totale, ni que le mystère d'enseignement est désormais inutile. Jean ne prône pas un mysticisme anti-intellectuel. Preuve en est cette épître dans laquelle il avertit, corrige, exhorte et encourage ses lecteurs. Et puis, de très nombreux textes de la parole de Dieu valorisent toutes les formes d'enseignement. Par exemple, dans sa première épître aux Corinthiens et aux Éphésiens, l'apôtre Paul écrit « C'est ainsi que Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Pour ma part, je peux penser à plusieurs hommes, dont un moniteur d'école du dimanche et deux ou trois professeurs de faculté théologique qui m'ont marqué à cause de la grande connaissance qu'ils possèdent de la parole de Dieu et du très grand respect qu'ils lui témoignent. À cette époque, j'étais jeune dans la foi et je buvais goulûment les Écritures. Et pourtant, j'en voulais encore parce que j'avais toujours soif. C'est ce qui m'a décidé à consacrer ma vie à étudier et enseigner les vérités que Dieu nous a communiquées dans les Saintes Écritures. Ça s'est fait un peu tout seul, sans révélation particulière. Comme Dieu m'a donné une passion pour sa parole, généralement, quand je prépare un module de chemin de vie, je ne vois pas le temps passer. Je continue le texte de 1 Jean. Et maintenant, mes enfants, demeurez attachés au Christ pour qu'au moment où il paraîtra, vous soyez remplis d'assurance et que nous ne nous trouvions pas honteux, loin de lui, au moment de sa venue. Comme précédemment, Jean exprime sa tendresse paternelle envers ses lecteurs en les appelant « mes enfants ». Le mot pour « enfant » décrit ceux qui sont nés dans une famille, une référence à la descendance indépendamment de l'âge. Ce mot est fréquent dans le Nouveau Testament pour désigner les croyants en tant qu'enfants de Dieu. L'apôtre s'adresse donc ici à tous ceux qui font partie de la famille de Dieu, quel que soit leur degré de maturité spirituelle. Jusqu'à présent, Jean a écrit pour rassurer ses lecteurs concernant la validité de leur expérience spirituelle et pour les mettre en garde contre les enseignements des hérétiques. En accord avec le thème de la communion, qui lui est cher, Jean encourage à nouveau ses lecteurs à rester rattachés à Jésus. C'est déjà la 10e fois que sous forme, ou sous une autre, où on rencontre le verbe « attaché ». Dans le chapitre 2, on fait sur les 112 utilisations de ce verbe dans le Nouveau Testament, il apparaît 66 fois sous la plume de l'apôtre Jean, dont 23 fois dans cet épître. Ce qui montre combien ce mot est important pour lui. L'expression « et maintenant » indique le début d'un nouveau paragraphe. L'apôtre introduit une nouvelle pensée, celle d'être rempli d'assurance quand le Christ paraîtra. Le mot pour assurance signifie hardiesse, audace, franc-parler, liberté de parole. Il est employé pour décrire l'audace avec laquelle les croyants peuvent s'approcher de Dieu. Si les lecteurs de Jean maintiennent leur communion avec le Seigneur, ils auront de l'assurance quand ils seront face à face avec lui. Tout comme deux des trois serviteurs de la parabole qu'on trouve dans l'Évangile selon Matthieu, dans laquelle on lit que leur maître leur confie une somme d'argent qu'ils doivent faire fructifier. Les deux premiers se présentent pleins d'assurance devant leur maître parce qu'ils ont été fidèles à la tâche qui leur avait été confiée. Le troisième, par contre, est tout penaud, honteux même, parce qu'il n'a rien accompli pour son maître. Tout croyant véritable possède la vie éternelle, et il ne peut en aucun cas la perdre. Cependant, son devoir est de rester attaché au Christ en persévérant dans sa foi au-delà de toutes les difficultés et tentations auxquelles il peut être confronté. C'est ce que Paul dit quand il écrit aux Philippiens. « Faites fructifier votre salut avec crainte et respect. » Dans sa souveraineté, Dieu sauve les pécheurs, mais ils doivent placer leur confiance en Jésus. Dieu les rend semblables à son Fils, mais à condition qu'ils lui soient soumis. Au premier abord, ces vérités peuvent paraître contradictoires. Mais en réalité, elles interagissent harmonieusement entre elles. Nous savons qu'un jour le Seigneur reviendra pour rassembler tous les membres de son Église, tous ceux qui croient en lui, et il les emmènera dans les cieux. Dans ses premières épîtres aux Corinthiens et aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul écrit « Voici, je vais vous révéler un mystère. Nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette dernière. Car lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles, tandis que nous, nous serons changés. En effet, ce corps corruptible doit revêtir l'incorruptibilité, et ce corps mortel doit revêtir l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se trouvera réalisée cette parole de l'Écriture. La victoire totale sur la mort a été remportée. Car voici ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur viendra, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts, unis au Christ, ressusciteront les premiers. Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Cependant, nous ne connaissons pas le moment du retour du Seigneur, ni d'ailleurs celui de notre mort. Par contre, je sais que dès que je franchirai le seuil de l'éternité, pour moi, tous les dés seront jetés à tout jamais. Tôt ou tard, je devrai me présenter devant le tribunal où le Christ siégera pour évaluer ma fidélité et décider si je recevrai ou pas des récompenses, ainsi que lesquelles. Or, celles-ci sont immensément plus précieuse que tout ce que renferme la terre, car elles conserveront leur valeur pour l'éternité. En parlant de ce grand règlement de compte, où vous et moi sommes conviés, aux Corinthiens, l'apôtre Paul écrit « Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra son propre salaire en fonction du travail accompli. » Seulement, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Pour ce qui est du fondement, nul ne peut poser un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. Or, on peut bâtir sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses ou du bois. du chaume ou du torchis de paille. Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Si la construction édifiée sur le fondement résiste à l'épreuve, son auteur recevra son salaire, mais si elle est consumée, il en subira les conséquences. Lui personnellement sera sauvé, mais tout juste, comme un homme qui réussit à échapper au feu. Ne jugez donc pas avant le temps. Attendez que le Seigneur revienne. Il mettra en lumière tout ce qui est caché dans les ténèbres et il dévoilera les intentions véritables qui animent les cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui revient, car nous aurons tous à comparaître devant le tribunal du Christ et chacun recevra ce qui lui revient selon les actes bons ou mauvais qu'il aura accomplis par son corps. Nous aurons tous à comparaître. Comparaître signifie rendre manifeste, mettre en évidence, mettre à nu, être dépouillé de toute façade extérieure de respectabilité, être pleinement révélé dans toute la réalité de son caractère. Rien que ça. Au moment de ce rendez-vous à ne pas manquer, la pleine vérité, pleine et entière sera faite sur ma vie, mes attitudes, ma fidélité et mes œuvres. Alors sera prononcé le verdict ultime sur mon service. Toute hypocrisie et tout faux semblant seront balayés. Tout accomplissement temporel sans valeur éternelle disparaîtra, comme le bois, la paille, le chaume, sous le craquement des flammes. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne suis pas trop pressé de me rendre à son tribunal. Oui, sauf qu'il est incontournable. Ne connaissant ni l'heure de ma mort, ni le jour du retour du Seigneur, j'ai intérêt de me tenir à carreau, à marcher droit et à vivre comme si l'heure du grand rendez-vous céleste était sur le point de sonner, parce que je n'aime pas les mauvaises surprises. Et je ne veux pas me retrouver tout penaud et tout honteux devant le Seigneur. Dans le livre de l'Apocalypse, on lit « Oui, dit Jésus, je viens bientôt, j'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun selon ce qu'il aura fait. » Qu'on se le dise !